cours j'ai sur les filtres à réponse impulsionnelle finie ou filtre MA pour Moving Average. Ce cours est décomposé en trois parties. Tout d'abord, présenter une application de la synthèse de filtres à réponse impulsionnelle. Il s'agit du débruitage. Comment modéliser cette expérience? Qu'est-ce qu'un bruit blanc? Et qu'est-ce que mesurent les rapports signal sur bruit? La deuxième partie expose la synthèse d'un filtre numérique. Quelles sont les étapes de la synthèse d'un filtre numérique? À quoi sert une fenêtre? Et qu'est-ce qui fait qu'un gabarit d'un filtre à réponse impulsionnelle idéal est difficile à synthétiser? Troisième étape, la discrétisation d'un filtre analogique en un filtre numérique par la méthode de l'invariant impulsionnel. Transparent 2. Ce transparent montre sur la courbe en haut au milieu un exemple de signal original et on peut penser en voyant ce signal qu'il s'agit de l'addition d'un signal constant nul entre les échantillons 0 et 200, égal à 1 entre les échantillons 200 et 300, et égal à 0 entre les échantillons 300 et 500, auquel on ajoute un bruit blanc qui varie sans arrêt partout. Alors, la question est comment, à partir de la somme de ces deux signaux, donc le signal qui représente une porte et le signal qui représente un bruit, comment, à partir de la somme des deux et sans connaître l'un et l'autre, comment est-ce qu'on peut utiliser un filtre qui permet de transformer la somme des deux signaux en un signal qui se rapproche le plus possible du signal porte. La première solution proposée est la figure en bas à gauche. Il s'agit d'un moyenneur sur 11 points, c'est-à-dire que chaque point du signal de sortie est calculé à partir du signal entrée, c'est-à-dire en l'occurrence du signal bruité plus le signal pur, le signal qui est représenté en haut au milieu. Donc chaque point est représenté par une moyenne de ces 11 points sur les 11 instants immédiatement précédents. Le résultat de cette opération est donc un signal qui varie de la même façon sur les 0,500 échantillons. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il a grosso modo la forme de la porte, c'est-à-dire qu'il vaut approximativement 0 entre 0 et 200 échantillons, approximativement 1 entre 200 et 300 échantillons, et approximativement 0 entre 300 et 500 échantillons. Si on regarde par rapport au graphique, à la courbe, au signal de départ, on peut observer que le bruit a fortement diminué, mais que globalement, le signal obtenu ressemble quand même au signal pur. La deuxième solution proposée est un filtre moyenneur sur 51 points. Le résultat que l'on peut observer est une courbe très proche de 0, jusqu'à peut-être 170-180 échantillons, puis une courbe qui monte en rampe, jusqu'à peut-être l'échantillon 220-230, ensuite constant égal à 1, jusqu'à l'échantillon 270 ou 280, puis descendant, suivant une rampe, jusqu'à l'échantillon 320, vers l'amplitude 0. Et approximativement égal à l'amplitude 0. Par rapport au signal de départ, on peut observer que le bruit a très fortement diminué, mais on peut aussi observer que le signal recherché, une fonction porte, est ici déformé et remplacé par un trapèze. Autrement dit, la recherche d'un filtrage est aussi la recherche d'un compromis entre enlever du bruit, mais ne pas trop déformer le signal d'origine. Si le filtre est trop fort, dans ce cas-là, on aura déformé le signal d'origine et s'il n'est pas assez fort, on risque de conserver trop de bruit. Voilà, c'est donc ce compromis-là qu'on est amené à choisir lorsqu'on synthétise un filtre. Transparent 3. Donc ici, c'est la modélisation de l'application pour le débruitage du signal. Le signal qu'on avait vu en haut au milieu est la somme d'un signal pur et d'un bruit. C'est ce qui est représenté dans le rectangle en haut à gauche. Le spectre du bruit est représenté sur la figure au milieu en bas par une courbe en zigzag verte d'intensité moyenne relativement constante. Le spectre du signal pur est représenté par des lobes très étroits et très d'amplitude très élevée. Et en effet, en général, le signal pur est à basse fréquence, même s'il n'est pas aussi régulier, il est effectivement à basse fréquence. Ensuite, la somme de ces deux signaux passe à travers un filtre moyenneur et le résultat est représenté, enfin le spectre du signal de sortie de ce filtre moyenneur est représenté par la courbe en bleu, donc qui est une courbe pointue avec des lobes toujours aussi étroits, mais où on a l'impression que le bruit a quasiment disparu. Alors l'explication, c'est que le spectre du signal de sortie, c'est-à-dire la trifouillette en discrète du signal de sortie, est égal à la réponse fréquentielle du filtre moyenneur que multiplie la transformée de Fourier en discrète de l'entrée du filtre moyenneur, c'est-à-dire de la somme du signal pur et du bruit. La réponse fréquentielle du filtre moyenneur est représentée par la courbe verte sur la figure en bas à droite. Elle est composée d'un lobe principal entre les fréquences moins 2 kHz et 2 kHz, puis de petits lobes entre moins 4000 et moins 2000, et entre 2000 et 4000. En réalité, voilà, cette réponse fréquentielle du filtre supprime fortement les fréquences un peu plus élevées que le signal pur et bon, est manifestement ici efficace pour enlever le bruit. Transparent 4. L'objectif est maintenant de regarder si la modélisation dans la pratique est pertinente entre de dire qu'un signal déformé est la somme d'un bruit et d'un signal utile ayant des caractéristiques spectrales particulières, en particulier d'être à basse fréquence. Alors là, le signal étudié, c'est un enregistrement datant de 1920 de la musique de Bach sur les 4 premières minutes. C'est ce qui est représenté dans la courbe en haut à gauche. La courbe en haut à droite représente l'enregistrement entre les secondes 5 et 6 de cette musique. En fait, c'est à peu près à cet instant-là, 5 secondes et demie, que la musique démarre et avant ce qu'on entendait, c'était le chuintement de l'appareil qui enregistre la musique. Donc la partie qui se trouve à gauche de 5 secondes 5 est en fait du bruit et la partie qui se trouve à droite de 5 secondes 8 est en fait de la musique. Ce bruit est représenté dans la figure en bas à gauche avec un zoom, hein, puisque les échantillons, les différentes, le graphe là représente entre la seconde 2,91 et 2,92. C'est donc 10 millisecondes qui sont représentées de ce signal. Et donc on observe ainsi la forme de ce bruit. Donc il y a une courbe générale auquel est ajoutée une courbe avec des fréquences relativement élevées qui doivent correspondre à ce chuintement. C'est ce qu'on appelle le bruit. Et c'est ce qu'on modélise par un bruit blanc. Et ce qu'on peut observer sur cette courbe est effectivement conforme à ce qu'on peut attendre d'un bruit blanc. La courbe au milieu, en bas, représente essentiellement de la musique, avec probablement du bruit qui se mélange dessus. Et on observe effectivement des courbes assez lisses qui sont caractéristiques d'un signal à relativement basse fréquence. Bon, la courbe en bas à droite montre simplement que la différence entre la prise de son à droite et à gauche est relativement similaire, qu'il n'y a pas de différence. Transparence 5. Donc, ce que l'on appelle le bruit, c'est l'ensemble des perturbations qu'elles interviennent au niveau du microphone ou dans toute la suite du traitement qui viennent affecter le signal d'origine d'une certaine déformation. Et on modélise le signal en sortie de la chaîne comme étant la somme d'un bruit blanc gaussien qui correspond au bruit et d'un signal utile. Il s'agit d'une modélisation, il y a d'autres modélisations possibles. Ce que l'on peut effectivement confirmer dans cette expérience consiste à prendre un signal effectivement utile et à rajouter un bruit blanc gaussien de faible variance. Et à l'oreille, ce qu'on entend, c'est effectivement un peu de chuintement qui est rajouté à de la musique. Alors, ce qu'on appelle aussi parfois le bruit, c'est en fait la différence entre le vrai signal et le signal déduit par un algorithme de traitement de signal. Transparence 6, qu'est-ce que le rapport signal sur bruit? Alors, il s'agit globalement du quotient de la puissance du signal par la puissance du bruit, pris à la racine carrée, et en général, on le mesure en décibels. C'est la raison pour laquelle il faut appliquer 20 fois log 10 de ce quotient. Le fait d'utiliser l'unité décibel aide à calculer. En effet, si on multiplie le signal par 2, alors le rapport signal sur bruit est augmenté de 6 dB. Si on multiplie le bruit par 2, alors le rapport signal sur bruit est diminué de 6 dB. Si on multiplie par 10 le signal, alors le rapport signal sur bruit augmente de 20 dB. Si on multiplie par 10 le bruit, alors le rapport signal sur bruit est diminué de 20 dB. Donc ce qu'on appelle le signal est, suivant l'application et suivant le dispositif expérimental, soit le signal utile quand on le connaît, soit la somme du signal utile et du bruit quand on ne peut pas faire mieux. De même, le bruit est soit une estimation du bruit que l'on peut faire, soit la différence entre le signal exact et le signal approché. Donc le reste du transparence, c'est quelques notions sur les variables aléatoires, avec cette idée en particulier que lorsque deux variables aléatoires sont indépendantes, alors la variance de la somme des deux variables aléatoires est égale à la somme des variances de chacune des deux variables aléatoires. Transparence 7. Donc la modélisation que l'on utilise ici, c'est que le signal est la somme d'un signal utile et d'un bruit. Ce qu'on appelle l'espérance en probabilité est la somme ou l'intégrale des valeurs possibles que peut prendre la variable aléatoire multipliée par la probabilité ou la densité de probabilité de ces valeurs-là, et on l'intègre sur l'ensemble des valeurs possibles de la variable aléatoire. Mais on peut aussi voir l'espérance comme étant la moyenne sur un très grand nombre d'expérimentations des valeurs prises par la variable aléatoire au cours d'un très grand nombre de tirages aléatoires. Ce qu'on appelle un bruit blanc gaussien, c'est un bruit pour lequel l'espérance de chacune des variables aléatoires, donc un bruit blanc Gaussien, c'est une succession de variables aléatoires au cours du temps. L'espérance de chacune de ces variables aléatoires est égale à 0. Les variables aléatoires sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que l'espérance du produit de deux variables aléatoires est égale à 0 si elles ne sont pas identiques, si ce ne sont pas exactement n égale à m. Et l'espérance du carré de la variable aléatoire, ou dit autrement, en l'occurrence la variance de cette variable aléatoire, est égale à une constante notée sigma carré. Lorsqu'on met en entrée une variable aléatoire, en entrée d'un filtre de réponse impulsionnelle HN, alors l'espérance de la sortie du filtre, donc la sortie du filtre est a priori une variable aléatoire, et l'espérance de la sortie du filtre est égale à la réponse fréquentielle en la fréquence nulle que multiplie l'espérance de l'entrée de la variable aléatoire. Cette formule est en fait très proche de la formule qui dit que la moyenne de la sortie d'un filtre est égale à la réponse fréquentielle en la fréquence nulle que multiplie la moyenne de l'entrée du signal. Pour synthétiser un filtre, donc maintenant c'est la deuxième partie du cours, comment synthétiser un filtre? Tout d'abord, on considère la réponse fréquentielle du filtre idéal que l'on cherche à synthétiser. Donc c'est une méthode possible. A priori, il peut s'agir d'un passe-bas, d'un passe-haut, d'un coupe-bande ou d'un passe-bande ou d'un passe-tout. Voilà. Donc une technique est de calculer la transformée de Fourier temps discrète inverse pour trouver une réponse impulsionnelle qui n'est a priori pas causale, c'est-à-dire qu'il y a des coefficients à la fois négatifs et positifs qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors cette première étape peut se faire aussi autrement. Elle consiste à prendre le spectre idéal, qui est un spectre de filtre analogique, à calculer la transformée de Fourier inverse, puis à discrétiser la transformée de Fourier inverse. Ensuite, la deuxième étape est de tronquer sur ce signal entre les indices moins grand n et plus grand n. Donc pourquoi ces indices-là? Parce que c'est essentiellement autour de l'indice égal à 0 qu'il y a le maximum de contribution sur la forme de la réponse fréquentielle. Donc on définit comme ça la suite HBN. Ensuite, on multiplie HBN terme à terme par une fenêtre. Alors, une fenêtre que l'on aura au préalable centrée autour de n égale à 0. L'objectif, en multipliant par cette fenêtre, est de compenser et de réduire la déformation du spectre liée à la troncature. Et puis, la quatrième étape consiste à décaler le signal multiplié par la fenêtre de façon à ce que la réponse impulsionnelle obtenue soit causale. Et on sait qu'un décalage de la suite ne change pas le module de la réponse fréquentielle et donc est identique au module de la réponse fréquentielle obtenu dans l'étape précédente, c'est-à-dire en multipliant avec la fenêtre, les indices de la fenêtre. Transparent 9, c'est l'exemple en utilisant un passe-haut. Donc la technique est légèrement différente dans le sens où on commence par construire la synthèse d'un filtre passe-bas. À temps continu, on calculerait la transformée de Fourier inverse du signal porte, donc en l'occurrence puisque la fréquence de coupure est à FE sur 4, donc entre moins FE sur 4 et FE sur 4, ce qui nous donne un sinus cardinal. Et puisqu'on est à temps discret, on va commencer par discrétiser le sinus cardinal, donc ce qui nous donne un sinus cardinal à temps discret. Et puisque c'est un passe-haut, on retranche le résultat de cette discrétisation de façon à définir un passo avec delta n. En effet, on sait que la transformée de Fourier temps discrète de delta n est égale à la somme d'un passe haut et d'un passe bas. Et donc que le résultat vaut delta n moins sinus pi n sur 2 sur pi n. Ça, c'est défini le passe haut. Et puis on tronque. Alors en l'occurrence, on tronque sur 7 indices, c'est-à-dire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. On ne conserve que ces indices. Il se trouve que dans cet exemple particulier, les indices pairs sont nuls. Et on multiplie par une fenêtre. Donc en l'occurrence, bah, ça pourrait être par exemple une fenêtre triangulaire. Et ensuite, la dernière étape qui n'est pas affichée sur le transparent consiste à décaler de trois indices de façon à ce que la réponse impulsionnelle obtenue soit effectivement causale. Transparent 10, on observe donc les mêmes étapes, mais à gauche, c'est l'évolution de la réponse impulsionnelle et à droite, c'est l'évolution du spectre. Donc à gauche, il s'agit d'un sinus cardinal en temps. À droite, c'est le filtre passe-bas. Sur la deuxième ligne, le sinus cardinal en temps est représenté en pointillé et avec des cercles. C'est une réponse impulsionnelle définie pour tous les indices depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, où on échantillonne le signal en temps. Ayant échantillonné le signal en temps, on obtient en fréquence un passe-bas qui est périodique. Ensuite, on cherche à retrouver la réponse impulsionnelle du passo correspondant. Pour cela, on sait que delta n, la transformée de Fourier temps discrète de delta n, c'est un passe-tout. Et par conséquent, la réponse impulsionnelle associée à delta n moins la réponse impulsionnelle du passe-bas est justement la réponse impulsionnelle du filtre passo, dont le spectre est représenté à la troisième ligne à droite. À la quatrième ligne, on tronque la réponse impulsionnelle correspondant au filtre passo et les termes tronqués introduisent sur le spectre des ondulations à la fois dans la partie proche de Fe sur 2 et de moins Fe sur 2 et dans la partie 0. Je rappelle que les traits qui sont semi-pointillés correspondent à Fe sur 2 moins Fe sur 2 et que à partir du moment où quelque chose qui est numérique et échantillonné à TE, il est normal que sur le spectre soit périodique de période Fe. La cinquième étape, correspondant à la dernière ligne, consiste à multiplier par une fenêtre triangulaire la réponse impulsionnelle obtenue à l'étape 4. Donc, la valeur prise par les termes de la fenêtre sont représentées en pointillés. Il s'agit en bas à gauche, il s'agit ici d'une fenêtre triangulaire, c'est une fenêtre de Bartlett, c'est une des fenêtres possibles. Et on observe qu'en ayant multiplié terme à terme, d'ailleurs on peut observer que le deuxième terme en bleu clair est plus faible que le deuxième terme en violet. Et on peut observer en bas à droite que l'impact est d'avoir réduit les oscillations à la fois autour de Fe sur 2 et autour de la fréquence nulle. Transparent 11. Donc les différentes étapes de la synthèse d'un fil sont répétées. D'abord, on définit en haut à droite la réponse fréquentielle du filtre idéal. En haut à gauche, c'est un sinus cardinal en temps. Et quand on tronque ce sinus cardinal, ce que l'on fait à la deuxième ligne à gauche, il apparaît sur la deuxième ligne à droite des ondulations. Et l'objectif est de chercher par quelle forme il faudrait multiplier ce signal à temps continu pour que les ondulations disparaissent. Alors on rappelle que la transformée de Fourier du produit de deux signaux est égale au produit de convolution de la transformée d'un des deux signaux par la transformée de l'autre signal. Il s'agit donc de savoir quelle est la transformée qui va réduire le plus possible ou atténuer le plus possible les ondulations, et donc la réponse de la transformée de Fourier de la fenêtre est donnée en bas à gauche. Transparent suivant, c'est la fenêtre de Amin et de Blackman. Non. C'est la fenêtre de Anning et de Bartlett. Donc la fenêtre de Anning, elle est assez simple comme définition avec 1,5 plus 1,5 de cos de pi k sur m. La fenêtre de Bartlett est encore plus simple puisqu'il s'agit de la fonction triangle, c'est celle qui a été utilisée. Et les différentes fenêtres se distinguent par la largeur de la transition, le nombre d'ondulations dans la bande passante et l'atténuation. Transparent 14, c'est la définition du gabarit de la bande de transition, des ondulations sur la bande passante et des ondulations sur la bande atténuée dans le schéma. A priori, le filtre idéal est un filtre passe-bas qui vaut 1 entre 0 et la fréquence de coupure et 0 après la fréquence de coupure. Ce qu'on appelle la bande de transition, c'est la plage de fréquence pour que la réponse fréquentielle passe de 1 à 0. Ce qu'on appelle les ondulations sur la bande passante, c'est donc la plage de valeur prise par le module de la réponse fréquentielle au voisinage de 1 entre la fréquence 0 et la fréquence FC. Ce qu'on appelle la plage, ce qu'on appelle la bande, la largeur de la bande sur la bande de fréquence atténuée, c'est la valeur du module de la réponse fréquentielle au-delà de FC plus delta F, c'est-à-dire dans la bande atténuée. Et on cherche à ce que delta 1, delta 2 et delta F soient les plus faibles possibles, mais on s'aperçoit dans la relation empirique que lorsque ces valeurs sont les plus faibles, le N doit être le plus grand, et N c'est le nombre d'éléments, le nombre d'indices non nuls de la réponse impulsionnelle. Enfin, dernier transparent, le 15, enfin dernière partie de ce cours, transparent 15, c'est la méthode de l'invariant impulsionnel. L'objectif de cette méthode est de transformer un filtre analogique en un filtre numérique. Et l'idée est tout simplement que le filtre numérique est défini comme étant la discrétisation de la réponse impulsionnelle du filtre analogique multiplié par la période d'échantillonnage. La raison pour laquelle cette idée-là peut quand même fonctionner, c'est que si on écrit la sortie d'un filtre analogique, il s'exprime comme le produit de convolution de la réponse impulsionnelle sur l'entrée, et que cette intégrale de 0 à t de h de taux x de t moins taux peut être approchée par la somme en discrétisant avec des périodes d'échantillonnage, des pas d'échantillonnage à te, donc la somme de 0 à n de te hkt de x n moins k te, c'est-à-dire du produit de convolution entre une réponse impulsionnelle qui est définie comme étant te fois la discrétisation de la réponse impulsionnelle du filtre analogique et l'entrée discrétisée du filtre analogique. Le résultat qu'on peut montrer grâce à l'étude du traitement numérique du signal est que la réponse fréquentielle du filtre numérique défini par la méthode de l'invariant impulsionnel est égale à la réponse fréquentielle du filtre analogique si la fréquence d'échantillonnage vérifie le critère de Shannon-Nyquist sur la forme de la réponse fréquentielle du filtre analogique. Sinon, il y a repliement spectral de la réponse fréquentielle du filtre analogique. Et donc déformation. Le filtre numérique ne sera alors pas identique au filtre analogique.